13h, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous, rebonjour à tous si vous venez de nous retrouver, sachez-le, donc nous sommes ensemble en direct dans cette émission Le Grand Déballage, je vous le rappelle, un rendez-vous qui sera désormais, je l'espère, inscrit évidemment, et puis techniquement nous essayons d'être au point. Je pense que nous sommes en direct donc de l'hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne avec le docteur Sioussine. Bonjour mon cher docteur.
Bonjour Adil.
Ça fait bonjour, plaisir j'espère de vous retrouver. Tout va Alors, j'aimerais, je le disais tout à l'heure en préambule, je le disais tout simplement en introduction, expliquer que dans le cadre de ce grand déballage, cette émission, nous allons tenter en tout cas tous les jours avec certaines personnalités de comprendre un petit peu, de nous faire vivre et à la fois donc tous ces événements qui sont à la fois inédits. Alors, à l'hôpital Saint-Camille, où vous êtes donc médecin, docteur Sioussine, je sais que vous vivez, vous, depuis le début de cette crise sanitaire aujourd'hui, évidemment qu'on qualifie d'inédite, certaines choses. Et je le sais aussi également, docteur Hossine, vous êtes sur le front. Alors tout d'abord, on va tenter de comprendre avec vous comment vous le vivez à l'hôpital à Saint-Camille, à Bry-sur-Marne. D'abord, comment allez-vous? Dans quel état d'esprit êtes-vous?
Bon, écoutez, je suis dans un état d'esprit où j'espère que ça va bientôt finir et qu'on va revenir à notre vie habituelle, normale, à notre petit confort et notre train-train, mais je pense qu'en ça, je suis pas tout à fait différent de la plupart des Français. Ça a totalement changé notre vie à titre personnel, mais aussi à notre vie à titre professionnel, puisque là, nous sommes sur du monothématique, monopolisé par la prise en charge de patients affectés par le coronavirus à des titres plus ou moins graves, et on aspire à reprendre notre métier habituel.
Si habituel, mais particulier quand même, docteur Sioussine, parce que vous étiez en première ligne, d'accord? Vous êtes concerné, vous me le confirmez, avec le coronavirus, vous étiez en première ligne à l'hôpital Saint-Camille.
Bah forcément, il a fallu, on avait commencé à anticiper l'arrivée de malades, et il a fallu s'adapter au fur et à mesure du flux croissant des patients qui se sont présentés pour des hospitalisations. Ça nous a imposé des renversements de paradigme, des organisations totalement différentes, puisqu'on a dû au fur et à mesure déprogrammer toutes nos activités considérées comme non urgentes pour pouvoir créer des places de réa libres. Puis ensuite, en ce qui concerne la réa, il a fallu, la noyade dont étaient victimes les services de réa, créer de nouveaux lits en transformant les lits de la salle de réveil, du bloc opératoire qui ne sont pas destinés à ça pour en faire une salle de réa. Puis ensuite, transformer les lits de l'unité de soins intensifs cardiologiques qui n'étaient destinés à la prise en charge de patients affectés de maladies cardiologiques avec des détresses, pour les transformer en unités de soins intensifs pour des patients affectés par le Covid. Donc ça a complètement motivé la réorganisation des services de réanimation, mais ça a motivé aussi la réorganisation des services de médecine, des services de chirurgie. On a commencé par transformer notre hôpital de jour, qui est normalement une unité d'ambulatoire. Ça veut dire que les matins, les patients arrivent le matin et repartent le soir en unité d'hospitalisation conventionnelle pour admettre les premiers malades. On avait commencé dans un premier temps par faire des services pour les patients qui étaient Covid+, c'est-à-dire dont la positivité avérée, et les patients pour lesquels il y avait une Covidité suspectée, donc on les mettait dans des services d'attente pour les rebasculer ensuite dans une unité Covid+, quand ils devenaient positifs. Et puis, le nombre de malades a cru, ce qui fait qu'on a créé un service, deux services, puis trois services, et maintenant on est à quatre services qui sont...
Vous êtes en train de me dire, docteur Sioussine, que le centre hospitalier de Sainte-Camille à Bry-sur-Marne a adapté son organisation, a transformé l'hôpital?
On a tout à fait transformé l'hôpital, puisqu'il y a deux ailes dans l'hôpital. On a fait une aile pour les Covid et une aile pour les non-Covid, avec à chaque moment, pour chaque entrée qui se fait dans l'aile des non-Covid, le risque que parmi les patients qui viennent pour d'autres causes, se cache parmi eux quelqu'un qui est infecté par le virus, ce qui fait que ça peut amener à des organisations supplémentaires, parce que quand vous avez dans un service qui est supposé être blanc, c'est-à-dire ne pas recevoir des malades affectés par le Covid, vous découvrez que parmi tous les patients hospitalisés, il y en a trois ou quatre qui sont bel et bien infectés par le virus. Vous êtes obligé de transférer ces malades dans les unités Covid, s'il y a des lits, voire de fermer complètement ce service pour le blanchir à nouveau. C'est très compliqué, ça. C'est pour ça que je vous dis que j'aspire réellement au retour à la normale, parce que c'est très épuisant, c'est très fatigant.
Avant de revenir au retour à la normale, justement, je voudrais vous poser la question, mais juste, je voudrais m'intéresser à la manière dont vous vous êtes adapté et transformé cet hôpital. Est-ce que, docteur Sioussine, avec vos confrères, vos consoeurs, vous avez instauré une cellule de crise permanente au sein de cet hôpital Saint-Camille?
Alors, au tout début de l'épidémie, la sémizocrise, elle était bicotidienne parce qu'il fallait tout organiser. On improvisait, c'était quelque chose de tout neuf. Donc, il a fallu réfléchir, créer des stratégies. Comment on va utiliser les masques, sachant que le nombre de masques était limité. Donc, on a une doctrine des masques qui a été fixée, puis ensuite qui a été adaptée. Quel type de masque pour quel type de geste, pour quel type de personnel, sachant qu'il pouvait pas être distribué à tout le monde. Il a fallu adapter les processus pour des choses toutes simples. Comment on fait entrer les malades? Par quel circuit? Pour pas qu'ils croisent les autres patients. Comment on les fait sortir pour pas qu'ils croisent les autres patients? Comment on fait la distribution des chariots repas? Comment on fait monter les repas? Qui les monte? Qui va y travailler? Qui va travailler dans ces unités? Parce que il faut des équipes dédiées, ce qui implique une charge en personnel très importante. Tout à l'heure, je parlais de la réa. C'est très facile, c'est déjà très difficile d'ouvrir des lits de réa supplémentaires, mais c'est encore plus difficile de trouver les infirmières et les médecins pour y travailler. C'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de gérer des respirateurs, qui ont l'habitude de prendre en charge des patients de réa. Ça a imposé de non plus pas fermer la porte aux patients qui ne sont pas.
Alors justement, docteur Sinti, est-ce que votre centre hospitalier a dû justement s'affronter à des préjudices, justement à des personnes qui sont concernées par évidemment des préoccupations de santé, la santé des patients, ceux que vous connaissez habituellement qui viennent régulièrement?
Alors si vous voulez savoir si un patient qui vient pour un problème connexe peut être aussi affecté par le Covid, à l'évidence, un train peut en cacher un autre, ça c'est un grand principe de la médecine. Et puis il faut aussi ne pas oublier qu'il n'y a pas que les malades atteints de Covid. Donc ces autres patients doivent continuer d'être pris en charge. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu transformer tout l'hôpital en hôpital Covid. On a pu écarter le non-urgent, parce que ça c'est le non-urgent, ça peut toujours être repris plus tard. Mais il y a des
patients qui sont en train de... Et vous êtes en train de me dire que vous faisiez donc à la fois allusion à cette restriction des visites, les couloirs sanitaires, les cellules spéciales. En gros, vous êtes en train de me dire, docteur Sioustine, que l'hôpital a chamboulé son fonctionnement pour gérer mieux l'épidémie.
Ah, totalement, parce que c'est à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les visites sont interdites. On peut pas décemment faire rentrer des gens dans l'hôpital pour avec le risque qu'ils propagent un peu plus le virus ou qu'ils viennent s'infecter en rendant visite à des gens qui sont hospitalisés, sachant que les patients sont éminemment contagieux. On a dû prendre ce genre de mesures. On autorise des visites simplement dans le contexte de soins palliatifs quand il s'agit des derniers instants pour que chacun puisse accompagner son parent qui va partir. Dans ce moment-là, c'est légitime. Mais pour les patients
Est-ce que vous vous êtes retrouvé, docteur Sioustine, avec un encombrement de votre service, avec un pic de l'épidémie, qui était annoncé d'ailleurs depuis quelques semaines? Est-ce que vous avez été confronté, par exemple, question pratique, à des lits qui étaient indisponibles pour la réanimation?
Alors, effectivement, on a eu la grosse tension, c'est surtout faite sur les lits de réanimation, mais on a réussi, à chaque fois, on a quand même réussi à transférer des patients ailleurs, une fois que notre réa était pleine. Et ça, c'était la grande angoisse, parce qu'en fait, la réanimation, c'est le filet de sécurité. C'est quand ça va mal, c'est là où vous pouvez confier votre patient pour lui donner une chance de s'en sortir. Si vous n'avez pas accès au lit de réanimation, là vous êtes totalement désarmé. On va aller au-delà de ce qu'on avait l'habitude de faire en salle sur les niveaux d'oxygène pour économiser les places de réa, si j'ose dire. Et c'était ça notre grande peur, c'est de pas trouver de lit de réa. Ça nous a obligés parfois à réfléchir et à prendre des décisions plus en amont pour dire qui va en réa et qui ne va pas en réa. C'est une décision extrêmement difficile humainement, médicalement, pour les personnels, pour les familles. Mais la situation l'imposait. Chaque fois, c'était des décisions qui ont été prises de manière collégiale et réfléchies sur les bénéfices attendus de la réa. Mais ça nous oblige, avec plus de rigueur, à le décider en amont, parce qu'on ne peut pas laisser un médecin de garde à 3h du matin prendre cette décision tout seul. C'est une décision qui réfléchit. Ça aussi, c'est un fonctionnement différent.
Restez avec moi, docteur Sioustine. Vous êtes en direct de l'hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne. Nous revenons dans une poignée de minutes, donc justement avec vous, avec le grand déballage, juste après la pub. À tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Bienvenue, si vous venez de le retrouver, nous sommes ensemble en direct donc dans l'émission Le Grand Déballage avec vous tous. Donc tout à l'heure, je vous le disais, nous allons retrouver Michel Taube avec lequel nous tenterons de comprendre comment il a couvert cet événement, il est journaliste. Nous sommes en direct de l'hôpital Saint-Camille à Bray-sur-Marne avec une personnalité que vous connaissez, le docteur Siouskin, qui lui était en première ligne au front tous les jours depuis le début de cette crise sanitaire. Il est avec nous en direct de l'hôpital, docteur Foussine. On parlait évidemment de l'incapacité parfois évidemment à trouver des lignes pour la réanimation. Aujourd'hui, est-ce que on est en mesure de tirer un premier bilan, docteur Foussine?
Le premier bilan, il est à la fois effroyable et à la fois rassurant. Effroyable, pourquoi? Parce qu'il y a un nombre énorme de malades, et tous les jours on a Jérôme Salomon qui fait le décompte. Il y a malheureusement un nombre énorme et de décès, sans doute un nombre de décès qui est minoré parce qu'on n'a pas toutes les statistiques des malades décédés en ville et des malades décédés en EHPAD, même si ça commence à s'affiner pour ce qui concerne les EHPAD. Donc ça, c'est un bilan qui est effroyable. C'est effroyable aussi par le coût que va représenter cette épidémie, parce que ça, on a engagé des moyens énormes, aussi bien en consommables, c'est-à-dire les tenues jetables, les masques, les gants, qu'en médicaments, qu'en journée d'hospitalisation. Il y aura à l'évidence pour les hôpitaux publics des pertes financières, puisque l'activité, elle a été arrêtée sur la chirurgie, sur plein de choses. Et puis, c'est aussi rassurant parce que au tout début, quand ça a commencé, on se demandait comment on allait faire, comment on allait tenir, si on allait s'en sortir. Et finalement, je crois qu'on a quand même fait le job et qu'on a quand même réussi, tant bien que mal, malgré les difficultés, malgré la pression de l'urgence, malgré les surprises qu'apporte chaque fois cette maladie, puisqu'on découvre à chaque fois au fur et à mesure notre pratique, on est questionné par des nouvelles manifestations, des nouvelles possibilités de traitement, les questions qu'on se pose. On a quand même réussi à s'en sortir plutôt pas mal. On fera sûrement après la crise, mais qui n'est pas pour tout de suite, à mon avis, on pourra faire une analyse rétrospective pour voir ce qui n'a pas été, mais je crois qu'on s'en est pas mal sorti pour quelque chose qui est pour une vague qui est arrivée comme ça, comme une grande claque dans la figure.
Justement, docteur Siouskin, vous savez, je vais reprendre une interview que vous aviez accordée en 2019. C'était pour le journal Le Monde. Ça va certainement vous parler. Vous disiez déjà en 2019 que vous parliez déjà de crise aux urgences. Vous parliez d'un Grenelle de l'hôpital qui devait s'imposer. Alors aujourd'hui, est-ce que la question se pose? Elle se pose différemment? Comment vous vous souvenez de cette fameuse interview?
Oui,
ça s'impose désormais de plus en plus.
Maintenant, plus personne n'aura le courage de tenir les propos qu'il tenait sur l'hôpital public, disant qu'il fallait restructurer, que tout allait bien, qu'il suffisait de réadapter, de fermer là où ça allait pas, de donner des moyens là où il fallait. Tout le monde a bien compris le caractère précieux et énorme de notre système de santé, puisque les pays qui n'ont pas notre chance mesurent vraiment la différence qu'il y a entre nous et eux. Tout le monde aujourd'hui se rend compte qu'il faut renforcer l'hôpital public, renforcer et soutenir tous ses personnels et donner les moyens adaptés pour qu'on ne se retrouve plus dans une situation pareille. Moi, j'ai une anecdote assez amusante. J'ai une jeune collègue qui est venue de Tunisie et qui travaille dans le service et qui m'a dit, écoutez, moi, docteur Siouskin, je suis quand même déçu. Je pensais que la France était un grand pays. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de solution hydroalcoolique. Elle disait ça avec un petit sourire et un peu et beaucoup d'humour. Mais c'est tout à fait ça. Qui aurait cru qu'on n'aurait même pas de quoi se laver les mains, on a dû se poser la question de savoir à qui on allait donner des masques et quel type de masque on donnerait et pour quel type de geste. On voit bien que là, c'est Warren Buffett qui dit que c'est quand la marée est basse qu'on voit ceux qui n'ont pas de slip. Et bien, quand la marée était basse, on a vu que l'hôpital public n'avait pas de slip, si vous me passez une expression un peu triviale.
Comment est-ce qu'on a une explication, docteur Siouskin? C'est vrai que le monde s'étonne la manière dont la gestion se fait dans les hôpitaux publics en France. Vous dites justement que cet exemple, qui est très frappant, de ce médecin, votre consoeur, donc de Tunisienne, qui vous dit que je ne m'attendais pas, évidemment, à gérer la crise de cette façon dans les hôpitaux publics en France. Est-ce qu'on a une explication aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, pendant des années, on a eu une politique du chiffre et de la gestion comptable, ne voyant que comment réduire les dépenses ici, diminuer les moyens là, sans réfléchir à ce qui pourrait se passer en dehors de la situation de routine, sans que personne ne se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand il y a une épidémie, qu'est-ce qu'il y a quand il y a une situation de crise. Enfin, c'est pas nouveau, là, c'est pas nouveau que les urgences n'arrivent plus à faire face à ce qui se passe, que les services de médecine soient débordés et encombrés par des patients dont on ne sait plus quoi faire pour les faire sortir. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que les hôpitaux, les carrières hospitalières soient plus attractives et qu'on trouve plus de manipulateurs radio, certaines spécialités médicales, que les aides-soignantes boudent les services hospitaliers. Ça, c'est pas nouveau. Tout le monde le sait. Tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur, sont un peu responsables de cet état de fait. Je suis même pas sûr que ce soit que les politiques. Je pense que c'est toujours plus facile de tirer sur le ministre en place ou sur le politique en place, mais il faut aussi s'interroger sur tous les technocrates et sur tous les hauts fonctionnaires qui ont pris les décisions qu'ils ont prises pour des visions purement comptables. Or, sur les questions de santé, il ne peut pas y avoir que des visions comptables. On parle d'êtres humains, de personnes fragiles, de patients, de gens qui doivent pouvoir trouver une lumière quand ils en ont besoin.
Dites-moi, docteur Simsim, le nombre de patients hospitalisés baisse en France. Le monde compte 2,1 millions de personnes touchées par le Covid-19 et plus de 140 morts. La France, quant à elle, comptabilise plus de 108 000 contaminations et plus de 17 900 décès. Aujourd'hui, effectivement, ça a été confirmé donc, par le directeur général, le docteur, le professeur Salomon, le nombre de patients hospitalisés est nettement en baisse. Mais une question qui me vient à l'esprit, docteur Suissin, est-ce que l'épidémie est désormais sous contrôle?
Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut être très méfiant. C'est une nouvelle maladie. On ne sait pas ce qui se passe. On a très peu de recul. Alors, l'épidémie, on est sur un plateau haut, comme le dit le Jérôme Salomon. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il y a de d'effervescence et de décroissance. On est sur un plateau haut, donc ça s'équilibre. On nous annonce un déconfinement au courant mai, partiel sans doute. Néanmoins, il y a le risque de cette deuxième vague que semblent avoir connu les Chinois. Ça veut dire que quand il peut y avoir une augmentation secondaire des cas, on peut voir réapparaître des cas. Le seul moyen pour qu'il n'y ait plus d'augmentation des cas, ce serait qu'il y ait une immunité conférée à une très très grosse partie de la population. Ça peut se faire de deux manières, soit par un vaccin qui n'existera pas avant 2021, dans le meilleur des cas, soit par un nombre de patients qui auraient été infectés, qui s'en seraient sortis, qui auraient donc une immunité acquise.
Ça veut dire, docteur Simsim, que l'épidémie est loin d'être enrayée.
Bien entendu, elle n'est pas enrayée du tout. Elle n'est pas enrayée du tout. Il faut encore un autre élément qu'il faut regarder et ne pas perdre de vue. On a une partie de la France qui a été très largement touchée, c'est-à-dire le Nord, le Grand Est et la région Île-de-France. Mais une autre partie du territoire a été très peu affectée, ce qui veut dire que là-bas, le niveau d'immunité est très très faible. Et donc, il y a dans ces régions-là le risque que se passe la même chose que ce qui a pu se passer dans le Nord, l'Est ou la région Île-de-France.
Docteur Seoussin, j'aimerais juste vous venir avec des cas pratiques avec vous. Vous avez et vous continuez à le vivre, évidemment, auprès de l'hôpital Saint-Camille. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé? Comment vous-même, en tant que médecin, vous avez vécu, évidemment, est-ce que vous l'avez vécu avec beaucoup d'adrénaline? Est-ce que vous l'avez vécu parfois avec beaucoup de difficultés vous-même? Est-ce que vous l'avez vécu aussi parfois en vous laissant décourager? Franchement, j'ai envie de savoir, vous, médecin, comment vous avez vécu et comment vous continuez à le vivre quand vous êtes en exercice?
Bah, écoutez, on peut déjà balayer une chose. Décourager, c'est pas du tout mon genre. Donc moi, j'ai eu une occasion de faire mon métier, de travailler, de servir et de m'engager. Mais comme tous mes collègues, donc c'est pour nous l'occasion de servir. Donc c'est quand on a choisi cette profession par vocation, c'est un bon moment pour illustrer son amour pour la médecine. Ensuite, décourager, il n'y a pas de raison d'être découragé. Il faut chercher, il faut créer des solutions, il faut trouver. Alors il y a des difficultés quand vous êtes convaincu qu'un malade doit passer en réa et que parce que vous pensez qu'il a des chances de s'en sortir et que vous avez une discussion avec les collègues, à ces moments-là, effectivement, c'est un sale quart d'heure, si vous me passez l'expression, parce qu'il faut sortir les bons arguments, et puis si jamais vous gardez au fond de votre tête la conviction que ce malade aurait dû aller en réa et que votre collègue vous dit non, il n'y a pas de bénéfice au fond de la réa, ça vous le gardez au fond de vous le gardez au fond pour faire la psychothérapie après, quoi. Donc oui, on est quand même formé et habitué à la mort, mais je vois que par exemple mes jeunes collègues, les jeunes internes, eh ben, il y a certaines circonstances où ils souffrent, parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains. On est confronté à la douleur et à la souffrance des malades, et ça on le prend pour nous, oui. Ça on le prend pour nous, puis on est dans un petit coin, effectivement.
Est-ce que vous-même, à un moment, vous vous êtes senti inquiet pour vous-même concernant ce virus ?
Je me suis pas vraiment senti inquiet pour moi-même. J'ai toute confiance en mes capacités physiques, peut-être à tort d'ailleurs. Mais ce qui m'importait surtout, c'était de ne pas infecter les autres, notamment. Mais je crois que ce sentiment est présent chez les soignants, c'est de ne pas infecter les autres, notamment nos proches, et donc d'essayer de ne pas être le cheval de Troie qui, en rentrant à la maison, on va faire rentrer le méchant virus. C'était ça la préoccupation essentielle, je crois. C'était celle-là.
On connaît la date, celle qui a été annoncée par le président de la République Emmanuel Macron, la date qui est dans les esprits désormais, le 11 mai. Le confinement jusqu'au 11 mai. Alors, docteur Sioussi, une question très simple. Est-ce que le 11 mai, on doit considérer que c'est un retour à la normale? Est-ce qu'on doit se dire comment se protéger pour éviter la transmission? Est-ce que tout ça, est-ce qu'on doit garder tous ces gestes aujourd'hui?
Ah bon, c'est absolument pas un retour à la normale. D'une part, parce que le déconfinement ne pourra être que partiel. Il faut penser aux 17 à 18 millions de sujets fragiles qui existent en France. Ceux-là ne pourront pas être déconfinés comme cela, et notamment pas le 11 mai. Sur la question des gestes barrières, on n'en a pas fini avec le virus. Tous ceux qui n'ont pas été infectés ont des risques de l'être. Donc les précautions barrières, au moment où le déconfinement sera levé, auront encore plus d'utilité pour se protéger et protéger les autres, pour protéger ceux qu'on aime et ceux qu'on ne veut pas infecter. Donc c'est bien tout le contraire d'un retour à la normale. C'est une adaptation à une situation paranormale. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses.
Aujourd'hui, ont tout fait pour ne pas céder à la psychose, pour ne pas déprimer pendant le confinement. Et vous allez en avoir, vous allez être confronté à des patients qui vont venir vous voir, et évidemment à l'hôpital Saint-Camille. Qu'est-ce que vous leur dites à celles et ceux aujourd'hui qui vous écoutent partout en France ?
Moi, je vais leur dire qu'il faut rester, que dans cette situation, il faut raison garder. Il faut se méfier des mages et des prophètes qui vous proposent de la poudre de perlimpinpin ou des recettes magiques pour guérir ou ne pas tomber malade. Et puis, je pense que, vous savez, c'est une habitude assez humaine. C'est quand ça va pas, on regarde ceux qui vont moins bien que nous. Et moi, tous ceux qui s'inquiètent, qui ont peur de la psychose, je pense qu'ils devraient se réjouir d'avoir la chance de pouvoir s'inquiéter et de se poser des questions, parce qu'il y a malheureusement des gens qui sont en réanimation, qu'il y a malheureusement des gens qui sont en train de mourir, qui sont sédatés pour ne pas souffrir, et qu'il y a des gens qui, dans les maisons de retraite, ne voient plus leurs proches, ne le comprennent pas forcément pourquoi depuis des semaines, et mais il y a déjà eu un nombre très important de décès, et que celui qui se porte bien et qui en a marre du confinement devrait quand même s'estimer heureux par rapport au malheur des autres.
Est-ce que, docteur Sioussi, aujourd'hui, dans votre centre hospitalier, on peut considérer que les choses reviennent tout doucement à la normale ?
On en est encore loin. Non, on en est encore loin. Nous, on est encore dans l'épidémie. Quand vous avez la moitié d'un établissement qui est occupé par des patients infectés par le Covid, quand vous avez une réa où la situation est encore tendue, vous ne pouvez pas considérer que c'est en train de revenir doucement à la normale. On en est très loin. Je pense qu'il ne faut pas chanter victoire trop tôt, parce que ça, c'est un véritable danger. Il faut rester très prudent, très attentif, et il ne faut surtout pas, on est toujours un peu surpris de voir que les gens sortent se balader dans les rues. Il faut surtout pas relâcher sa vigilance, sans tomber bien sûr dans l'hystérie. Mais il faut ne pas considérer qu'on est en train de... que le déconfinement veut dire que la victoire est acquise, est une énorme erreur.
Moi, docteur Sioussine, est-ce que celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui peuvent regagner tout doucement, si vous voulez, le chemin de l'hôpital? Est-ce que s'ils veulent aller consulter, ils peuvent le faire aujourd'hui, par exemple, au sein de votre centre hospitalier?
Alors, pour l'instant, il faut... On a les consultations sont pas réouvertes comme cela. Par contre, il y a un point essentiel sur lequel il faut insister. Celui qui est en situation de détresse, celui qui présente une pathologie urgente ou une dégradation de l'état général, doit venir consulter. Il n'y a pas que le Covid dans la vie, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que le Covid dans la vie. Quelqu'un qui ne va pas bien, qui a sa maladie chronique qui décompense, il doit venir consulter. Il sera pris en charge dans un circuit différencié, dans un circuit alterne où il n'y aura pas de Covid, et sera pris en charge pour sa pathologie, et il doit l'être. Le plus grand danger aujourd'hui, c'est de voir des gens qui vont se présenter dans 2-3 semaines, dans des états généraux catastrophiques, il y aura un nouvel afflux de malades qui risque là encore de désorganiser les hôpitaux qui seront pas tout à fait remis, qui seront sans doute pas tout à fait remis du Covid. Donc il faut consulter quand on en a besoin. Après, pour tout ce qui peut attendre, ça peut être largement différé.
Moi, docteur Séhoussine, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Le département le plus touché en Île-de-France, il s'agit de la Seine-Saint-Denis, le département du 93. J'imagine un peu que vous avez suivi ça. Est-ce qu'on a aujourd'hui une raison, une explication, si vous voulez, que ce département soit le plus touché aujourd'hui? Se sont posés la question, docteur Séhoussine?
C'est pas très compliqué à comprendre. C'est un département qui a été laissé pour compte depuis très longtemps, où règne une très grande misère, une précarité à la fois médicale, sociale et dans les logements, avec des populations qui n'ont pas forcément été informées d'une manière adaptée sur les risques et les dangers, parce que c'est assez facile de reprocher aux gens de ne pas comprendre. Si on leur a pas choisi les mots pour leur expliquer, si on n'a pas trouvé les bons médias ou les bons interlocuteurs pour leur parler, il ne faut pas s'étonner qu'ils n'aient pas tout compris. C'est un département où la densité médicale est faible, l'accès aux soins est réduit et limité, où les gens vivent dans des appartements, souvent, quand on connaît bien la Seine-Saint-Denis, qui sont totalement indignes. C'est très facile d'être confiné quand vous avez 150 mètres carrés, être confiné quand vous vivez à 5 ou 6 dans un 30 mètres ou 40 mètres carrés, vétuste, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très facile d'être pris en charge quand vous avez un accès facile aux médecins. Quand il n'y a pas de médecin qui s'installe en Seine-Saint-Denis, la prise en charge médicale, elle est moins bonne, évidemment. Et on ne retrouve pas ça qu'en Seine-Saint-Denis. On retrouve ça dans tous les quartiers populaires de France et aussi dans les campagnes qu'on oublie parfois, où là aussi, la prise en charge n'est pas tout à fait égale et le niveau de chance n'est pas le même.
Docteur Séhoussine, à une minute avant de marquer une pause et de retrouver notre second invité, finalement, je sais que c'est un peu tôt, évidemment, pour tirer des leçons de tout ça, et les enseignements surtout, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui?
Qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'on s'en sortira à un moment ou à un autre, mais qu'il faut se comporter d'une manière responsable. Et puis, j'ai envie de leur dire que cette épidémie, c'est peut-être la bonne occasion pour redécouvrir la solidarité et la fraternité, c'est-à-dire se préoccuper de son voisin qui est ancien, à qui on peut proposer d'aller faire les courses, voir s'il va bien. C'est aussi de chercher à voir comment chacun peut contribuer pour aider. Moi, on a tous été très touchés par tous les témoignages de solidarité qu'on a reçus. Nous, on a une dame à l'hôpital, à côté de l'hôpital, qui nous ramène du thé à l'amande, des gâteaux, du couscous, des tagines. On a reçu des boîtes de chocolat, on a eu des dons d'entreprise. Et ben, tout ça montre dans un monde dont on dit qu'il est de plus en plus individualiste, plus centré, auto-centré, qu'il y a quand même encore une bonne part d'humanité. Et cette bonne part d'humanité, il faut la cultiver, l'entretenir. Et espérons que ce sera un des enseignements qu'on tirera de cette épidémie du Covid.
Et je profite, docteur Séhoussine, de cela pour vous rendre un immense hommage. Vraiment, je voudrais vous dire un immense respect à vous, vos collègues, vos confrères, vos consoeurs. Vous faites un travail exceptionnel, sachez-le. Et je voudrais évidemment, avec la radio Beurre FM, vous dire à quel point, évidemment, on voudrait rendre hommage avec le travail que vous êtes en train de nous fournir. Docteur Séhoussine, bravo tout d'abord. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on vous retrouvera régulièrement comme ça de temps en temps dans le grand déballage sur notre antenne sur Beurre FM. Merci
de votre soutien. Au revoir, bonne journée.
Nous allons marquer une courte pause, pub, tout de suite, et on va se retrouver avec Michel Taube. Michel Taube, qui est le patron journaliste d'Opinion Internationale. Et on va s'intéresser à la manière dont il s'est organisé pour couvrir l'événement. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, c'est le grand déballage, émission un peu spéciale. Vous le savez, on a changé un peu le créneau d'horaire. Désormais, et je l'espère d'ailleurs, qu'on sera au rendez-vous de 10h à 13h. On va accueillir notre second invité. Il s'appelle Michel Taube. Bonjour Michel Taube.
Bonjour Adil, bonjour aux auditeurs de Beurre FM.
Merci d'être avec nous, mon cher Michel Taube. Vous êtes le fondateur, vous êtes journaliste, vous êtes géo aussi. Vous faites de la géopolitique. Vous êtes évidemment dirigeant de l'Opinion Internationale. Dites-moi tout d'abord, vous savez, je vous ai lu quotidiennement. Vous avez couvert l'événement du Covid-19, du coronavirus. Parfois, vous avez fait même parfois du rentre-dedans pour essayer de bousculer les lignes. Tout d'abord, comment vous l'avez vécu, cette couverture du Covid-19? C'est un peu particulier pour un journaliste.
Ah oui, c'est tout à fait particulier parce que, vous savez, des journalistes comme vous et moi, on est avant tout des êtres humains et des citoyens comme les autres. Et donc, notre ressenti au quotidien de cette crise qui frappe tout le monde, eh ben, il impacte forcément sur notre analyse du sujet. Nous sommes témoins, mais nous sommes aussi, pour certains, victimes, pour d'autres, enfin, nous vivons la crise comme tous les autres. Donc cette dimension, elle est très très importante à comprendre. Après
En
évidemment,
tant que journaliste vous-même,
allô?
Michel, en tant que journaliste vous-même, vous
Oui.
étiez confronté pour la première fois à une couverture inédite?
Oui, je crois qu'on peut le dire, puisqu'encore une fois, nous ne parlions pas d'événements qui se passent loin de nous. Alors évidemment, on a tous été à des moments ou l'autre témoins de l'histoire qui se fait. Par exemple, lorsqu'il y a eu la révolution tunisienne, moi j'étais en Tunisie, je connais très bien ce qui s'est passé. Donc il est pas, on est parfois, il arrive qu'on soit nous journalistes au cœur de l'histoire. Mais c'est vrai que là, cette crise du coronavirus, elle nous frappe tous et donc. Nous sommes aussi, comme tous les autres citoyens, au cœur de cette histoire complètement hallucinante. Rappelez-vous comment nous vivions il y a 2 mois et demi. On était dans un autre monde, j'ai envie de dire. Et notre vie a complètement changé pour tout le monde, et aussi pour les journalistes. Donc effectivement, c'est une expérience nouvelle et ça a complètement changé, évidemment, aussi notre travail au quotidien.
Moi, vous avez régulièrement fait des billets, des éditos plutôt, dans votre quotidien, Opinion internationale, où vous avez parfois bousculé les lignes. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, notamment lors de l'allocution, la dernière allocution, donc de lundi dernier, du président Emmanuel Macron? D'abord, comment vous l'avez trouvé? Quand on lit les différents commentaires, il était plus dans l'empathie, il a changé. Vous, quel est votre sentiment?
Alors, moi, mon sentiment, il est partagé. C'est-à-dire que, comme je l'ai souvent écrit depuis un mois et demi, je pense que la France, on a un bon président de la République. Emmanuel Macron a une bonne image à l'international. C'est un homme qui est jeune, qui est moderne, qui parle bien, qui présente bien, qui incarne bien, à certains égards, la fonction présidentielle. Et ses discours, généralement, moi je les salue, ils sont bien écrits, ils sont envolés, ils correspondent à la fonction présidentielle que l'on a en France avec la Ve République. Les Français, nous, on aime bien les beaux discours, on aime bien les grandes envolées lyriques, et c'est vrai que sur ce registre, le président de la République actuelle, il est plutôt très bon. C'est une réalité. Après, gouverner, ce n'est pas parler. Gouverner, ce n'est pas faire des discours. Gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est agir, gouverner, c'est être présent quand il y a une crise. Et là, je pense que le président de la République, honnêtement, il est moins bon. Il est moins bon que ce que ses grands discours font apparaître. Je vous donnerai qu'un exemple. Lundi dernier, c'est vrai que le président de la République a fait un beau discours, un discours un peu trop long, peut-être, mais c'était un beau discours. Mais qu'est-ce que les Français ont retenu? Principal et unique message, et tout le discours a été tourné vers là. C'est de laisser entendre, même si ce n'est pas ce qu'il a dit exactement, que la sortie du confinement allait commencer le 11 mai et que ça allait commencer principalement par certaines écoles primaires et maternelles. Or, qu'est-ce que l'on constate depuis le discours du président de la République? C'est qu'en fait, rien n'est prêt. Que le gouvernement n'est que en train de travailler sur cette hypothèse, que le Premier ministre consulte ses ministres, qu'il aura un rendu des idées des ministres que ce soir, et qu'ensuite il va y avoir une synthèse qui va être faite la semaine prochaine. Bref, le président de la République nous fait un discours, et en fait on se rend compte ensuite qu'au moment où une grande annonce est faite, ben en fait des choses ne sont pas prêtes et ne sont qu'à l'état d'ébauche. Et encore une fois, en plus, sur une idée largement erronée, qui est de laisser entendre qu'on va sortir du confinement à partir du 11 mai, alors qu'en fait, quand on regarde dans le détail de ce qui a été dit et de certaines mesures qui ont été annoncées, malheureusement, la sortie du confinement va s'étaler sur une assez longue durée et va certainement aller jusqu'à la fin juillet, c'est-à-dire la fin août. Et la rentrée de septembre. Et donc je trouve que la communication du chef de l'État, au final, elle n'est pas si bonne que cela. parce que il y a des belles paroles, mais sur le fond, il n'y a pas de précision, il y a une impréparation, il y a souvent du retard à l'allumage, et ça nous a causé énormément de problèmes sur les masques, sur les tests, sur les gels hydroalcooliques, et maintenant sur la préparation de la sortie du confinement. Donc oui, je dois le dire, en tant que journaliste, en tant que citoyen, je suis un peu déçu, et je trouve que la France fait plutôt partie du peloton, non pas de tête, mais de la queue de peloton dans cette gestion de la crise du coronavirus.
Il y a un sujet, vous l'avez abordé, qui a suscité un vif débat, une polémique aussi parfois. Je fais référence au retour à l'école, qui ne sera pas obligatoire, semble-t-il, le 11 mai, selon le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer. Alors, est-ce que c'était une bonne idée, finalement, Michel Taube ?
Est-ce que c'était une bonne idée ? C'est ça la question ?
C'était une bonne idée, le retour à l'école pour les enfants ?
Alors, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais sur la base de ce que l'on nous a dit depuis maintenant 2 mois, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que les enfants, surtout les enfants en bas âge, sont les seuls de nos concitoyens qui ne peuvent pas respecter les gestes barrières. Et deuxième problème, les enfants, manifestement, sont pour beaucoup d'entre eux asymptomatiques, c'est-à-dire ceux d'entre eux qui ont le coronavirus, pour la plupart d'entre eux, ils n'en ont pas les symptômes. Donc lorsqu'ils ont le coronavirus, ils ne le savent pas. Et en même temps, ils peuvent fortement contaminer leurs voisins. Donc le risque est grand, selon moi, et je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup d'observateurs le disent, beaucoup d'enseignants, beaucoup de scientifiques disent commencer le déconfinement par permettre aux personnes qui sont les plus à même de ne pas respecter les gestes barrières et de transmettre à leur insu le coronavirus, parce que dans la cour de récréation, à la cantine, dans la classe, eh ben, ils vont se refiler le virus. Je pense que c'est une très très mauvaise idée. Et je dois dire d'ailleurs, enfin, lorsque j'ai vu le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, que par ailleurs je salue et qui est pour moi un grand ministre, qui a des idées fortes, qui est volontaire, qui est innovateur, eh ben, Jean-Michel Blanquer, le lendemain du discours du chef de l'État, il était très gêné pour répondre aux questions des journalistes, notamment sur France 2, parce qu'effectivement, il n'était pas en mesure de répondre à aucune des questions qui lui étaient posées. Il disait « on y travaille, on en saura plus dans 15 jours ». Mais enfin, franchement, ça ne faisait pas très, très, très professionnel. Et en plus, je pense que c'est dangereux. Moi, ma conviction, c'est qu'il eût été préférable de commencer par ouvrir tous les petits commerces où il n'y a pas plus que 5 à 10 personnes qui peuvent rentrer, les petits restaurants, tous les lieux où il n'y a pas trop d'affluence et trop de personnes, en multipliant les gestes barrières. Et s'il y a un édito parmi les nombreux éditos que j'ai publiés, auxquels je tiens beaucoup, c'est par exemple celui que j'ai publié ce matin, dans lequel j'explique en quoi, selon moi, on pourrait dès le 11 mai rouvrir les restaurants, par exemple, à condition de respecter des gestes barrières, c'est-à-dire en prenant la température des personnes qui rentrent dans le restaurant, en mettant 1 mètre entre chaque table de restaurant, en embauchant une personne qui sera chargée pendant tout le service de nettoyer les poignées, les tables, les chaises, les toilettes, etc., pour encore une fois multiplier les précautions et permettre en même temps à nos concitoyens de ressortir un peu, de vivre un peu, de reprendre l'air. Voilà. Je pense que ça aurait été préférable de commencer par cela plutôt que par les écoles où il y a des risques, à mon avis, de transmission du virus. Après, je comprends que le confinement à la maison avec nos enfants, ce soit très, très, très difficile. Moi, j'ai une fille qui a 9 ans, pour laquelle c'est très dur dans un tout petit appartement d'être confinée avec ses parents. Mais je pense qu'en matière de santé publique, ça aurait été préférable.
Moi, Michel Taube, Autre sujet, évidemment, c'est les 18 millions de personnes qui sont à risque. Les 18 millions de personnes qui se sentent aujourd'hui, qui sont considérées comme à risque, hein, qui devront, eux, quant à eux, rester confinés. Alors, Michel Taube, est-ce qu'on peut parler de ségrégation, de racisme? Évidemment, quand on dit à certains, vous restez chez vous, donc les 18 millions de personnes à risque, et puis les autres, vous pouvez sortir et retrouver une vie plutôt normale.
Alors, pour moi, la seule discrimination positive, c'est la protection de la santé des personnes. Donc, effectivement, si on nous explique qu'une personne de plus de 70 ans doit être confinée pour la protéger au niveau de sa santé, moi, personnellement, ça ne me choque pas qu'on lui demande de rester confinée. Mais là, c'est la même chose. Peut-être y a-t-il d'autres solutions plus pragmatiques, moins douloureuse pour des personnes âgées de rester partiellement confinées. On pourrait par exemple imaginer que dans un immeuble, une personne âgée de plus de 70 ans qui doit rester confinée parce que elle risque d'attraper le virus et d'en mourir parce que le taux de mortalité est important parmi les populations âgées, on pourrait imaginer qu'une heure par jour, il y ait une personne de l'immeuble ou du quartier qui ne soit pas porteur du virus parce qu'elle a été testée, qui la prenne en main pour la sortir un petit peu se promener pendant une heure ou deux et ensuite retourner à son confinement. Est-ce qu'on a mis en place ce genre de mesures qui permettraient à ces personnes âgées de respirer, de prendre l'air, de vivre un petit peu, tout en restant plus longtemps confinées si c'est nécessaire? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il faut peut-être pas utiliser des mesures draconiennes, idéologiques, générales, qui s'appliquent à tout le monde, qui sont souvent arbitraires, pas forcément efficace, et il faut plus faire du travail dans la dentelle, du travail du sur-mesure. C'est pas à Emmanuel Macron, le président de la République, de dire tout ce qui doit être fait et tout ce qui est interdit. Il faut laisser les communes, il faut laisser nos médecins traitants, il faut laisser les familles prendre aussi un peu en charge les choses pour pouvoir trouver les meilleures solutions dans le respect de grands principes qui sont à poser, qui sont le respect des gestes barrières, le port d'un masque et quelques autres règles. Mais vous voyez, c'est ça que moi je préconise, c'est un peu plus de sur-mesure, parce qu'on est tous adultes et on sait aussi par intuition et par bon sens prendre des mesures de protection pour tenter d'échapper à ce virus. Donc je pense qu'effectivement, isoler pendant encore 3 mois ou 6 mois 18 millions de personnes âgées, c'est pas une bonne idée. Il y a peut-être des solutions plus nuancées, plus pragmatiques qui permettraient de laisser ces personnes un peu confinées parce que ça les protège, mais en même temps de sortir un peu plus parce que ça leur permettrait de vivre et de survivre. Juste encore un mot sur les EHPAD. C'est la même chose. Du jour au lendemain, on a fermé les EHPAD. Peut-être qu'ils auraient pu organiser des sas de rencontres entre les personnes des EHPAD et leurs parents. Il y a eu des drames et des tragédies dans les EHPAD où des personnes âgées sont mortes, sont décédées et n'ont pu rencontrer leur famille parce que c'était une barrière infranchissable. Bref, un peu trop de rigidité dans notre système, alors que dans d'autres pays, c'est plus souple et ils n'ont pas forcément plus de morts.
Bon, comment vous voyez les choses, vous, pour les semaines à venir, après le déconfinement progressif? Comment vous voyez les choses à terme, c'est-à-dire y compris au mois de juin, au mois de juillet, cet été? Évidemment, tous les festivals, tous les événements qui se sont décalés. Comment vous voyez les choses, Michel Taube?
Alors, vous savez, pour moi, la société, c'est la société, l'économie, c'est un être vivant. Et là, ce qu'on a, on a un peu cassé un ressort, en fait. Il y a un ressort qui s'est brisé. Et c'est difficile de relancer un ressort, de refaire fonctionner un ressort. Et c'est vrai que on a tous pris, j'ai envie de dire, un coup sur la tête. Et donc, il va falloir se relancer, se redynamiser. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Et ça va être d'autant moins facile que, encore une fois, les messages des pouvoirs publics sont flous. Comment je vois l'avenir? Déjà, j'aimerais avoir une vision de quand on va sortir du confinement. Pour moi, c'est pas clair. Ça va commencer le 11 mai pour certains, mais par exemple, toutes les manifestations publiques, les concerts, les spectacles, les restaurants, ça va pas être, paraît-il, avant la mi-juillet, mais on n'en est pas sûr. Comment va se passer l'été, quand va avoir lieu la rentrée. Donc, tout ça n'est pas très clair. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a, on va avoir à la rentrée un retour de cette colère française qu'on a déjà vue avec les gilets jaunes, avec la retraite, avec l'affaire Benalla. Il va y avoir une colère française que je crains qui va remonter parce que effectivement les Français et les sondages le montrent. Hein, les Français considèrent dans les sondages assez largement que le gouvernement n'a pas su gérer cette crise. Hein. Emmanuel Macron a une bonne cote de popularité, mais sur les questions est-ce que le gouvernement a bien su gérer cette crise, la réponse est largement négative. Et donc moi je crains un nouvel épisode de colère sociale à la rentrée parce que je crois qu'il y a du mécontentement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été très durement frappées par cette crise, parce que beaucoup de gens vont reprocher et reprochent déjà au pouvoir public de n'avoir pas assez tôt réagi, manque de masques, manque de tests, manque de blouses pour les soignants, manque de gel hydroalcoolique, etc., etc. Et donc, je pense que la sortie de crise ne va pas être simple. Et moi, je le redis, je suis partisan d'une autre démarche, comme on la voit en Autriche, comme on la voit en Allemagne, comme on la voit en Corée du Sud. C'est une démarche de dire, il vaut mieux reprendre une vie sociale assez rapidement. Il vaut mieux se remettre au travail assez rapidement. Il vaut mieux reprendre une vie sociale assez rapidement, mais en multipliant les gestes barrières et les règles de sécurité.